Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser des commentaires. Cette semaine sur Eurosport, nous mettons en lumière les sportives à l'occasion de la semaine sport féminin toujours. Et pour le tennis français, quand on pense à une femme qui a marqué notre sport, nous pensons naturellement à elle. J'ai l'immense plaisir de recevoir celle qui a été numéro un mondial, la seule dans le tennis en France. C'est une figure et l'une des plus grandes athlètes françaises, Amélie Mauresmo. Salut Amé.
Salut Deep, ça va ?
Comment ça va dans cette période assez trouble ?
Écoute, ça va bien, ça va bien. Je me considère assez privilégiée en réalité, justement, dans cette période-là. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Je n'ai pas été, on va dire, à titre personnel autour de moi. Au niveau santé, tout va bien. Et au niveau activité, qualité de vie, malgré les contraintes qu'on connaît, ça se passe plutôt bien.
Est-ce que toi, donc pour revenir justement sur cette semaine sport féminin toujours, pour commencer, est-ce que tu as été inspiré ? Si oui, par qui ? Et est-ce qu'il y a eu parmi tes inspirations des femmes ?
Il y a eu, pas seulement, parce que tout le monde connaît l'histoire de mes débuts au tennis en regardant Yannick gagner Roland-Garros. Mais alors, ça va être plutôt tennis, hein, plutôt orienté tennis quand même. C'est vrai qu'il y avait Steffi Graf qui était vraiment très inspirante pour moi lorsque j'ai commencé. Gabriella Sabatini, pour les plus anciens, s'en souviendront peut-être.
Mais les connaisseurs s'en souviennent.
Voilà. Et c'est vrai que c'était des figures très marquantes pour moi dans ce sport que je commençais à 4-5 ans à aimer tellement fort et qui m'a passionnée. Donc, c'était des joueuses hors normes et avec des caractères assez forts. Plus tard, après, je pense aussi dans les années 90, moi j'étais déjà j'étais une jeune joueuse junior en 96. Je pense à Marie-Jo Pérec, qui était forcément pour nous Français et même à l'international une figure. Enfin voilà, elle portait une classe, une élégance et puis une athlète extraordinaire. Donc Marie-Jo a aussi fait partie de ces personnes en tant que jeune athlète, moi pour le coup, qui m'a inspirée. Ouais.
Tu suivais tous les grands événements sportifs,
ouais.
Plus jeune.
J'étais comme beaucoup d'entre nous. Hein, je sais, on était vraiment des passionnés, des dingues de sport, féminin, masculin. Tout ce qui passait à la télé, c'était bon à regarder, c'était des émotions à engranger un maximum, c'était aussi le côté, la fibre patriotique, souvent qui ressortait, voilà, les Français, les Françaises, qu'est-ce que ça donne, les équipes de France dans les sports co, je trouve que j'ai un peu moins maintenant, pour être honnête, parce que les enfants et l'organisation de la vie, etc., il y a un petit peu moins de temps pour suivre tout ça, mais je le regrette un peu et même par rapport aux enfants, je me dis il faut qu'ils regardent du sport à la télé. Je trouve que bien sûr en live si on peut, mais à la télé c'est fantastique parce que je trouve que ça amène des émotions et ça véhicule des valeurs qui sont quand même encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Il faut pas les oublier. Je suis pas capable de m'en souvenir aujourd'hui, mais effectivement quand Yannick gagne Roland Garros à 4 ans, ok, le sport, le tennis en lui-même sûrement m'a plu, mais je pense que ce qu'il véhiculait à ce moment-là, surtout Yannick qui lui laisse vraiment transparaître ses émotions, était très fort pour moi. Dans un deuxième temps, beaucoup plus en conscience, en grandissant, là, oui, je suis capable de dire que pour moi, c'était vraiment des moments... le sport nous procurait, me procurait des émotions extraordinaires, même encore maintenant. Je pense aux filles du hand, il n'y a pas si longtemps, au championnat d'Europe. Je veux dire, tu suis le parcours, c'est émouvant. Puis il y a des moments en équipe, il y a des moments, des partages que tu vois peut-être moins ou pas dans les sports individuels. Donc, ouais, ça te met les larmes, ça te met les frissons. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important.
D'accord. Donc pour le coup, tu le vis encore, ça a commencé
tôt. Je le vis encore, je le vis encore, bien sûr, je l'ai encore. Quand on voit les joueurs de foot il y a deux ans et demi, et puis c'est le partage avec les proches aussi, avec les amis, il y a une forme de... Voilà, on va tous vers un objectif, donc c'est sympa. Je le vis encore un peu moins souvent, malheureusement, mais c'est toujours aussi agréable.
C'est quoi les événements qui t'ont le plus marqué, justement, dans ta jeunesse? Tu disais Roland Garros, ok, mais 83, mais tu étais toute jeune, des souvenirs un peu enfouis. Mais après,
les Jeux Olympiques, c'est vrai, 92, 96. Et puis, là, plus tard, en 2000 à Sydney, quand je suis dans le stade, Cathy Freeman qui gagne le 400 mètres chez elle à Sydney, c'est juste fantastique. Ouais, les Jeux Olympiques, ont eu un impact quand même assez important. C'est pour ça que c'était si important pour moi, tu ne diras pas le contraire, de participer et de pouvoir ramener une médaille à la France. Les équipes de France de foot aussi. Alors à l'époque, c'était plus les garçons qui étaient médiatisés, mais je crois que ça rassemblait énormément. Voilà. Je pense aux filles du hand en 2003, si je me souviens bien, qui sont championnes du monde. C'est fantastique. Enfin, plein de moments. Plus petite, j'ai plus de mal à me souvenir concrètement, à part Roland-Garros et les Jeux Olympiques.
Quand tu parles justement des sports d'équipe, alors les JO, on y va à titre individuel, mais tu représentes la France, donc tu as quand même l'impression, j'imagine, d'appartenir quand même à une équipe, à l'équipe France, tu vois, au sens large du terme. Toi, en tant que joueuse de tennis, c'était vraiment une priorité dans ton calendrier, les JO, la Fed Cup?
Ouais, pour moi, c'était très important d'aller chercher le titre avec les filles, avec l'équipe de France en Fed Cup. C'était... représenter le maillot, enfin c'est le maillot quoi. Maintenant c'est un peu une expression un petit peu galvaudée parfois, mais pour le coup il y a 20 ans, même plus, c'était vraiment quelque chose de très profond et un attachement très très important. Et ça me permet de revenir aussi sur la Coupe Davis 96, qui est aussi, c'était des moments, en 91 on a 12 ans. On regarde ça, c'est juste le rêve, quoi. C'est juste fabuleux. Donc oui, tout ça, ça nous a porté, ça m'a porté, et ça a porté toute une génération. Et donc effectivement, les Jeux, on dépasse le cadre de notre sport. Et je trouve que c'est, pour le coup, c'est magique. On croise des athlètes incroyables qui sont incroyables au village et tout, et on se dit bah ouais, je fais partie de ça, si je peux ramener une médaille, je contribue. Et donc c'est extraordinaire.
Tu as le souvenir d'en avoir rencontré justement des athlètes que tu rêvais de rencontrer, c'est peut-être pas le mot, mais que tu souhaitais vivement croiser, rencontrer, avec qui tu as pu discuter? T'en as certains
que je souhaitais vivement, je sais pas, mais en tout cas Tony Estanguet, croisé, Christine Aron, on était aussi à Athènes, je me souviens, dans le même bloc. Après tu voyais un peu les stars du basket américain de loin. Là, je n'osais pas les approcher, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de mélange, un melting pot de tous ces sports qui est fascinant. Et, sinon après j'ai pas. On était quand même assez concentrés sur l'objectif, et c'est vrai que la cérémonie d'ouverture, on attaquait tout de suite après. Donc, il y a eu une concentration, mais je me souviens en avoir bien profité quand même.
Tu parlais de Steffi Graf, Gabriela Sabatini. Tennistiquement, ou après peut-être dans d'autres secteurs, elles t'ont inspiré vraiment? Tu t'en es servi?
Alors, Il se trouve que c'est deux joueuses qui jouaient revers à une main. Donc, est-ce que c'est anodin? Peut-être pas, dans la façon, peut-être aussi d'être sur le terrain, de mener leur carrière, peut-être dans un comportement surtout. Je pense à Stéphie, tu vois, toujours très calme, peut-être. Et puis, sur le style de jeu, je sais pas, je peux pas vraiment dire, mais en tout cas, revers à une main, peut-être.
Justement, est-ce que tu penses qu'il y a des femmes inspirantes qui mériteraient aujourd'hui d'être plus médiatisées?
En fait, il y en a forcément. Tu vois, je reparle un peu du dernier championnat d'Europe de hand. Quand je vois, quand tu regardes un petit peu les vidéos d'après, genre les yeux dans les bleus, ce qui s'est passé, les discours des filles, tu vois, les prises de parole, les leaders qu'il y a dans le foot, pareil, c'est dommage de ne pas le montrer à plus de gens, en fait. C'est dommage de ne pas le faire partager à un public plus large. Et c'est un petit peu la bataille dans les médias qu'il y a depuis des années maintenant, de toute façon, pour effectivement mettre en avant un petit peu plus les sportives et surtout leur personnalité, leur capacité peut-être à mener finalement. Alors, et voilà, faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'exposition parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Vertueux, peut-être même. Plus tu as d'exposition, plus les gens découvrent, plus les gens s'y attachent, plus. Et on ne sait pas si c'est la poule ou l'œuf, hein, tu vois. Est-ce qu'il y a plus d'exposition, donc il y a un intérêt plus grand, ou est-ce qu'il faut que l'intérêt vienne avant pour qu'il y ait plus d'exposition? C'est un petit peu compliqué, j'imagine, pour les médias de comprendre ça. Mais je trouve que c'est dommage parce que parfois on passe à côté de personnes et de personnalités qui sont hors normes.
Toi, sur ton parcours, pour revenir un petit peu justement sur ta carrière, je sais qu'il y a beaucoup de très bons moments, des moins bons aussi, j'imagine, mais beaucoup de très bons moments.
Ouais. C'est les moins bons font que les bons
Les
sont
bons sont
encore
très, très bons, excellents.
meilleurs, sont fantastiques.
Exactement. Et dis-moi, est-ce que tu en retiens un ou tu pouvais justement nous en donner, allez, un ou deux, je sais pas, qui ont vraiment marqué ta carrière, ça serait lesquels?
C'est évident que je mets Wimbledon au-dessus probablement des autres. C'est en même temps c'est le dernier moment vraiment très fort de ma carrière. Voilà, l'émotion ressentie à ce moment-là est juste fantastique. Le contexte très particulier aussi de rejouer Justine qui a abandonné en finale de l'Open d'Australie en début d'année, c'était très difficile, c'était très dur sur le plan mental, émotionnel et tennistiquement c'était pas le meilleur niveau que j'ai pu avoir dans ma carrière. Donc voilà, et c'était pas les conditions peut-être idéales. Mais c'est encore, du coup, un moment encore peut-être plus extraordinaire. Je mets, allez, avec ou juste rien en dessous, trois choses qui sont la victoire au Masters en 2005 face à Marie, la victoire en Fed Cup en 2003 avec toute l'équipe de France. Et la médaille au jeu. En fait, quand je résume tout ça, quand j'ai ces quatre moments-là, avec la place de numéro un mondial, ce sont les plus grandes fiertés de ma carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas arrivé tout de suite, c'est que, comme tu le dis, il y a eu des moments très durs, des remises en question, des peines, enfin voilà, tout ce qu'un athlète peut vivre dans une carrière. Enfin, il y en a qui le vivent moins que d'autres. Rafa, Roland, je ne suis pas sûre qu'il ait.
Ouais,
Il y a
il y
des
a plus
remises
de
en question,
problèmes.
mais bon.
Oui, il y a moins de mauvais
Voilà,
moments.
c'est ouais, mais c'est ce qui fait que le chemin est intéressant aussi. Je peux le dire maintenant, 10 ans après avoir arrêté ma carrière, c'est plus facile à dire. Quand tu es dedans, c'est un peu
Quand
plus de souffrance.
tu parles de tes meilleurs moments, là pour le coup, tu parles de Wim, du Masters, de la Fed Cup, de ta médaille au jeu, tu mets pas l'Open d'Australie. C'est différent.
Ben, je suis obligée de le mettre un peu en dessous. Même parce que l'émotion en fait du moment n'a pas
Et
été
moins
là.
fort.
Ouais, la fierté, parce que pour moi j'étais au-dessus sur ce tournoi. Pour le coup, tennistiquement, autant à Wimbledon, je pense que c'était pas si évident que ça. Autant en Australie, je me sentais, mais je touchais plus terre. Voilà, pour moi, j'étais vraiment dans un autre monde et j'étais très très confiante sur ce qui allait arriver. Donc de ce point de vue-là, c'était extraordinaire pour moi, mais il y a eu ce moment de la victoire qui n'a pas été là. Donc, ben forcément, je le mets. Parce que qu'est-ce qui nous pousse? C'est aussi l'émotion qu'on ressent dans ces moments-là. Donc, Ça, du coup, je le mets un petit peu en dessous.
Donc finalement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément le niveau de jeu qui produit cette émotion, cette hyper satisfaction, cette joie que tu vas éprouver, mais c'est vraiment le contexte. Finalement, ça peut être des choses très différentes avec la dimension mentale. Est-ce que tu as l'impression de vivre une revanche à Wimbledon? C'est une revanche, cette finale? Ou c'est pas comme ça que tu
c'est
le vis?
Pas c'est pas une revanche par rapport à Justine, c'est une confirme. Il fallait confirmer, si tu te souviens, ou pas, c'était ouais, mais on sait toujours pas si elle est capable d'aller servir pour le match, pour le tournoi, etc., etc. Donc il y avait encore, en fait, cette j'entendais tout ça, tu vois. T'as beau t'isoler, t'as beau essayer de
un petit goût d'inachevé, donc il y a un petit truc qu'il fallait
prendre encore. Et même si je l'avais fait au Masters, c'était pas un grand chelem. Même si peut-être la performance est plus difficile ou en tout cas différente sur un Masters, je l'avais pas fait encore en grand chelem. Donc il fallait que j'y arrive, il fallait que je le fasse. Et ce poids-là était assez, assez important sur mes épaules. Je me le mettais peut-être toute seule aussi, hein, cette charge-là. Et du coup, voilà, le soulagement était d'autant plus important.
Sur la Fed Cup, l'émotion, elle est différente.
Ouais, mais c'était fabuleux aussi. C'était des pleurs, c'était des larmes, c'était un partage, tu vois, même rien que d'y penser, ça te reprend tout d'un coup comme ça. Et puis, c'était une aventure de plusieurs années aussi avec des filles de ma génération. Je pense à Nat, je pense à Émilie. Et puis, hop, Marie qui revient à son meilleur niveau à ce moment-là, qui avait 4 ans de moins que nous. Et qui est tout d'un coup se met dans l'équipe vraiment, quoi, s'intègre dans cette équipe et qui vient nous permettre sur la phase finale d'amener les points qu'il nous fallait. Et du coup, c'était très émouvant. Et tu vois, le contexte, encore une fois, on était en Russie, il n'y avait pas grand monde, on jouait les États-Unis en finale, on s'en foutait. On était nous, quoi. C'était l'équipe, on était ensemble et tout ce qui comptait pour nous, c'est d'aller chercher la coupe, quoi. Et c'était un grand moment d'émotion et un grand moment de partage. Et surtout, c'était le premier gros titre pour moi dans mes objectifs de carrière que j'avais affiché d'ailleurs, qui n'était pas courant à l'époque, en France en tout cas. C'était gagner la Fed Cup, être numéro 1 mondial et gagner un grand chelem. Voilà, pour moi,
C'est intéressant ce que tu dis là, d'afficher ses objectifs. Ça peut être mal reçu.
Exactement.
En France,
en tout cas, c'est
glissant d'avancer ça publiquement. Finalement, toi, tu le fais justement. Est-ce que ça t'a pas effrayé à ce moment-là? Est-ce que tu t'es pas mis justement peut-être plus de trop ou plus de poids sur les épaules?
J'ai pas le sentiment, ça m'a de l'afficher, ça m'a aussi permis de l'assumer et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour arriver à la première place mondiale, pour arriver à gagner des grands chelems, pour aider l'équipe à gagner.
Tu n'avais plus le droit de t'échapper, le fait de l'avoir dit en fait.
Là, tu le dis, donc tu peux plus, le moindre faux pas, le moindre écart, tu n'es pas à l'aise avec toi-même quand même, quoi. Tu n'es quand même pas.
On te le rappelle et toi,
mais on me le rappelle même pas. C'est que moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que pour moi, tu dis un truc, tu le fais. C'est en tout cas, t'essayes. J'avais pas d'obligation d'y arriver. La seule obligation que j'avais, c'était de tout mettre en place pour essayer d'y arriver. Et pour moi, ça, c'est très important. Et aujourd'hui, de ce que je vois, c'est pas toujours le cas. Voilà, il y a des choses.
C'est ce qui manque un peu.
Ouais, il y a des. Mais parfois, ouais. Tu dis les choses, tac, t'affiches et tout, t'y crois sur le moment, mais derrière, la difficulté, elle est où? Elle est sur la durée. Elle est sur le fait que ça s'installe sur la durée, quotidien, quotidien, quotidien. C'est pour ça que les meilleurs, je pense, en ce moment, c'est dans le tennis masculin qui a les plus gros palmarès, à part Serena, mais Serena, elle n'a pas regagné depuis quelques années. C'est incroyable ce qu'ils font.
Est-ce que ça, finalement, quand tu mets tout en œuvre, tu le vis au moment où tu le vis, est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est juste normal et l'objectif prend le pas sur tout le reste? Est-ce que c'est difficile à vivre? Est-ce que c'est cet engagement du quotidien?
Pour moi, ce n'était pas difficile. Ce n'était pas difficile parce que j'étais obsédée par ça. C'était une obsession. Le soir, quand j'allais me coucher ou quand j'avais des copains qui voulaient venir dîner ou quand j'allais... Non, j'avais toujours ça en tête. Parce que c'est quoi qu'est-ce qui peut te faire voilà, sortir un peu, c'est de vouloir, t'es jeune, t'as envie de profiter un peu de la vie, t'as envie de profiter des potes, t'as envie de voir d'autres choses, de vivre autrement, un peu les choses que vivent les jeunes de ton âge. Et pour moi, je m'autorisais, tac, les petites, moi passionnée de vin, je m'autorisais des moments dans une année pour, voilà, pour goûter un peu les vins que j'aimais, que j'avais envie de goûter, mais c'était anecdotique par rapport à toute une saison. Et pour moi, ça ne me demandait pas d'effort, en fait. Parce que c'était ma quête, c'était mon rêve, c'était mon obsession.
Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, tu parlais d'avoir joué un très très haut niveau au moment de l'Open d'Australie où tu te sentais supérieure, plus forte? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que ça a été assez fréquent ou pas du tout, d'avoir touché cette espèce d'état de grâce, tu sais?
Oui, malheureusement pas assez souvent,
Ouais.
parce que bah, tu sais bien, on remet en question toutes les semaines, tous les jours, chaque match, c'est un nouveau départ. Et moi, je n'étais pas une joueuse qui, comme Marie, d'ailleurs, Marie Pierce pouvait l'être, qui arrivait et qui ne doutait pas ou peu, qui était sûre de ses forces. J'étais toujours dans le doute, j'étais toujours à. Et Marie m'a bien inspirée d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu aller chercher mes grands titres. Mais en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. Et pour que j'arrive à ces moments-là, il fallait que, par exemple, je sorte d'une semaine où j'ai gagné un titre. Et là, la semaine d'après, j'arrivais, généralement, j'enchaînais plutôt bien.
En grande confiance. Et
Ouais, le doublé.
t'as le
Bah,
souvenir de
le
quel.
doublé Paris-Anvers, voilà, c'était arrivé, tac, tac, je gagne l'Open d'Australie, je gagne Paris, je gagne Anvers, ou j'arrive d'Australie, ma finale, je gagne Paris, je gagne Nice, des tournois en fin d'année aussi. Souvent, c'était justement par série, par séquence comme ça, parce que il me fallait des matchs, des victoires pour arriver à avoir cette confiance et justement à me dire, ça va rouler tout seul, quoi.
Sur le thème de la confiance, tu parles de Marie Pierce, qui a une double culture, voire une culture quand même
Oui,
très
bien
américaine.
sûr.
Est-ce que tu crois que ça joue pour le coup, toi
Bien
qui parles
sûr.
de tes doutes et elle qui arrive et qui a une confiance en soi bien
Elle a
supérieure?
effectivement cette double culture et effectivement, ça penche beaucoup plus du côté anglo-saxon, américain. Et pour moi, ça a été de la côtoyer justement très proche en équipe de France. C'est pour ça qu'on s'apportait beaucoup mutuellement et qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact d'un groupe, même dans un sport individuel. Elle nous a apporté, à nous, je pense, toutes, les plus jeunes qui étaient avec elle, elle est arrivée, elle pouvait jouer, mais comme une merde à l'entraînement. Elle arrivait sur le court et c'était une confiance qui se dégageait. Et puis, tu sais, nous, en France, souvent, on dit, on a honte des fois, tu sais. Ces trucs-là de dire on a honte, ben, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ça en elle. C'était, elle arrivait, elle allait faire ce qu'elle pouvait de mieux et elle avait suffisamment de confiance pour se dire la nana, je vais peut-être pas l'écraser, mais je suis meilleure qu'elle, quoi. Et je pense que ça l'a aidé énormément dans sa carrière aussi. Et pour nous, c'est pas naturel. Pour nous, Français, c'est pas du tout naturel. Et c'est vrai que moi, je me suis battue contre ça presque tout au long de ma carrière. Et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas
Justement,
facile.
on parlait un peu de tes bons moments, mais il y a eu quelques obstacles. Ça, tu dis que tu t'es battu contre cette culture ou ces doutes que tu pouvais avoir parce que remise en question, mais ça, c'est humain aussi de se remettre en question pour analyser, progresser.
C'est
Ça, c'est
normal.
plutôt sain. Mais ça a été quoi finalement, toi, les freins, les obstacles que tu as rencontrés aussi tout au long de ta carrière? Tu parlais de moments plus délicats, plus difficiles.
Ben, c'était ce truc mental que j'arrivais pas à passer, que j'arrivais pas à dépasser. Je n'arrivais pas à trouver les clés en moi de ce qui allait me. Je pense que j'avais le niveau de jeu, je gagnais des tournois de première catégorie, comme on les appelait à l'époque, des Masters 1000, comme on pourrait dire maintenant. Et je n'arrivais pas à passer les quarts de finale en Grand Chelem, alors que les filles, je les battais sur les autres tournois. Tu vois, donc forcément, je me disais, OK, mon coup droit était un peu suspect
Hasardeux.
à certains moments. Non, mais tu vois, ça ne suffisait pas. Comme par hasard, sur beaucoup de tournois, il était très bien. Donc, c'est qu'à un moment donné, ça se délitait parce que mentalement, il y avait le doute qui s'installait, il y avait la pression qui arrivait, il y avait cette gestion, en tout cas, des émotions qui n'était pas calée, qui n'était pas là, tout simplement. Donc, il a fallu que je fasse, que je touche un peu à beaucoup de choses différentes, que je fasse un vrai travail sur moi. Je parle au début, psycho du sport, psychologue du sport, qui m'a aidé. Ensuite, j'ai bossé avec quelqu'un qui faisait de la latéralisation. Je pense que ça peut s'associer, s'assimiler maintenant à l'EMDR. Pour finir, avec un pédopsychiatre, essayer de creuser un petit peu plus dans l'enfance, tout ça. Donc, c'est hyper intéressant déjà. Je pense que ça fait partie intégrante de mon parcours et ça m'a apporté énormément dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur le cours, pourquoi, comment, vers quoi je dois à quoi je dois me raccrocher, à quoi je dois penser dans ces moments-là, et puis me comprendre moi aussi, et ce qui me sert encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est toute une démarche un peu globale. Ça part de mes difficultés dans le tennis pour me sentir aussi mieux personnellement, humainement, quoi. Et c'est tout un parcours qui est, je trouve, aujourd'hui difficile à aborder pour les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, c'est pour les athlètes en carrière, et alors que c'est probablement une partie pour certains déterminante.
Mais c'est vraiment une démarche personnelle.
Au départ, oui, c'est absolument à 100% une démarche personnelle.
C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu, quand je dis une démarche personnelle, ça vient vraiment de toi, c'est pas ton staff, ton environnement.
Alors, si, je me souviens. Alors, si, bien sûr, je me souviens d'échanges avec Loïc Courteau qui m'a suivi pendant 6-7 ans, avec Alexia même avant. C'était. Ça a toujours été des discussions, si, bien sûr. Parfois, ils n'arrivaient pas à trouver les clés.
Mais donc, toi, c'est eux qui te font passer le message, parce que c'est toujours aussi difficile, tu vois, de faire passer un message à son joueur, à sa joueuse, qui plus est très forte déjà, parce que tu es déjà à très haut niveau, et de lui faire comprendre que tu dois peut-être t'engager dans d'autres voies. Il faut être quand même très ouvert pour l'accepter.
Ouais. Alors c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. On avait déjà, avec Alexia, avec Loïc, on avait déjà beaucoup de discussions ensemble qui dépassaient largement le cadre du terrain, de la technique, etc. On avait des discussions qui engageaient l'aspect psychologique de ce sport. Ce sport qui est quand même assez particulier sur ce plan-là aussi. Ça nous met vraiment face à nous-mêmes de façon parfois assez brutale. Donc pour moi, c'était des discussions qui étaient déjà d'ordre psychologique et qui m'intéressaient énormément. Donc c'est vrai qu'après, il a fallu qu'ils m'en reparlent chacun à leur façon plusieurs fois pour que j'essaye un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Donc ils ont contribué au fait que je sois prête finalement un jour à faire appel à toutes ces personnes.
Ouais, toi, tu dis, tu sais à ce moment-là que tu es tennistiquement très forte. Oui. Tu sais que physiquement, tu es très forte et tu te dis que le blocage, il est vraiment dans la tronche et que tu dois réussir à trouver la clé. C'est ce que tu dis. C'est vraiment ça. Et que tu travailles dans cette recherche.
Autant en début de carrière, y a d'autres choses à bosser aussi. Tennistique, j'ai fait évoluer mon service. On a essayé d'améliorer le coup droit autant qu'on pouvait. J'ai amené des choses dans mon jeu aussi, un peu plus d'agressivité, de venir vers l'avant, etc. Donc la partie plutôt tactique. Mais arrivé à un moment où j'étais dans les 5 meilleures joueuses du monde, tu vois, donc il n'y a pas de raison. À partir du moment où les unes les autres régulièrement en dehors, puis c'était une génération aussi, il faut se souvenir, Justine Hénin, Kim Clijsters, Serena et Vénus qui sont très fortes, Davenport, les Russes, Sharapova, Azarenka, Dementieva, Miskina, toute cette Kuznetsova. Donc, toute vainqueur de Grand Chelem, sauf Dementieva, c'est une génération qui est assez dense. Mais bon, j'étais assez facilement à me maintenir dans les 10, voire dans les 5. Donc, facilement sans c'est pas mais voilà, c'était mon niveau quoi. Je piquais pas la place à une autre quoi. J'étais là. Donc oui, là, à un moment donné, il fallait se dire malgré tout ce que j'avais déjà essayé hein, parce que les premiers essais c'était enfin les premières collaborations c'était 20 ans, 21 ans hein. Donc j'étais pour le coup là, j'étais pas encore à ce niveau-là, mais pour moi, ça me paraissait déjà important.
Il y a des moments un peu déclencheurs, des sortes de déclics que tu as pu avoir et qui t'ont marqué, pareil, dans ta carrière, où tu as senti vraiment que tu passais une étape. Alors, tu parles de la dimension mentale, mais ça peut être dans n'importe quelle, ça peut être très global finalement.
Ouais, j'arrive pas là comme ça, à part le fait que le Masters, la victoire au Masters m'a donné une confiance extraordinaire pour la suite et pour l'année d'après où j'ai fait ma plus belle saison.
C'est une prise de conscience en fait, où tu te dis là.
Mais c'est pas anodin non plus, ça arrivait après tout ce travail tennistique, physique, mental. Donc c'est arrivé aussi en bout de chaîne en fait, tout simplement. Il y a un aspect beaucoup plus personnel qui m'a fait un déclic énorme, c'est d'avoir perdu mon père au moment on venait de gagner la Fed Cup. Et c'est vrai que là, c'était 24 ans, c'est un choc. Enfin, voilà. Et là, quand même, tu grandis, en fait. Tu grandis d'un coup. Et du coup, tu vas chercher d'autres choses. Donc, je pense que là, c'était une prise de conscience sur l'urgence aussi de ce qu'il fallait que je mette en place. Et mentalement, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger des choses quand même aussi. Donc, c'était un moment de ma vie de jeune femme, évidemment déterminant, mais aussi de ma vie de sportive, de joueuse de tennis.
Tu as l'impression de passer adulte à ce moment-là?
Bah oui, bien sûr, tu deviens adulte. C'était ça. Et puis remis dans le contexte, ça relativise aussi énormément ce que ta vie, enfin ta carrière de joueuse. Justement, ça reste un sport, ça reste au départ un loisir, une passion qui devient un métier, mais ça remet en perspective pas mal de choses.
Et justement, si tu devais aujourd'hui donner des conseils aux jeunes filles, ça serait quoi encore une fois, c'est toujours une question très ouverte.
Ouais.
Non, mais tu parles de plein de choses, de mental, de travail, beaucoup quand même, parce que finalement, oui. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est que rien n'est arrivé par hasard. Voilà.
Et ça, c'est ce qui se entend. J'ai beaucoup travaillé, j'ai passé beaucoup de temps. Oui.
Mais avec passion, parce que ça n'a pas été. Tu dis toujours. En même temps, tu dis que ça a été un plaisir. On est d'accord. Tu as toujours cette notion de plaisir. Jamais tu vis ça comme un boulot où tu te lèves le matin et tu vas souffrir. Tu vas souffrir, mais pour de bonnes raisons.
Ça a pu arriver que je traîne les pieds pour aller à l'entraînement. On est d'accord. Mais à 90%, c'était soit du plaisir, soit il faut que je le fasse pour pouvoir accéder à mon rêve en fait. Donc c'était ma mission, c'était ma quête, voilà. Et en fait, j'étais beaucoup dans le jeu quand même. On se connaît, c'était. Quand on partait en tournoi, ou quand on allait à l'entraînement, c'était du jeu. Il y avait toujours du jeu. Le tennis, ça reste un jeu. Donc, bien sûr, il y avait des phases à l'entraînement répétitives et qui sont moins sympas. Mais il y avait toujours quand même un peu de jeu à certains moments. Puis, on est des compétiteurs. Donc, tu as l'entraînement. Puis, derrière, tu as les sets d'entraînement. Tu as les trucs qui tu mets des paris. On est des joueurs. Donc, tu mets des petits paris en jeu. Donc, c'était aussi le but de trouver toujours des façons de
challenger un peu.
Ouais, de garder ça, cette âme d'enfant dans tout ça.
C'est des choses importantes dans un parcours de formation, des choses à déceler quand tu parles de compétition, tu vois, de se trouver des challenges, d'aimer le défi. Après, tu peux parler de dépassement de soi, tu peux parler de plein de choses, tu vois, par extension. Et ça, c'est des points qui te paraissent essentiels.
Je pense que c'est très important. Après, c'est à chaque athlète ou à chaque entraîneur de trouver un peu ce qui va pousser son joueur ou sa joueuse, ce qui va l'amener encore plus loin, ce qui va lui permettre de dépasser. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu gardes quand même ce côté-là de jeu, d'enfant, de compétiteur en même temps, parce que dans tout ce que je faisais, c'était ça. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Mais le goût du travail, et ça, je l'ai appris quand même un peu sur le tas. Je l'ai quand même appris sur le tas par Xavier aussi. Tu me disais que tu avais fait
Oh ouais,
l'interview là.
préparer physique.
Exactement. Et ils m'ont appris ça, Loïc, Courteau, Xavier Moreau, Alexia de Chaume avant. C'était pas. Moi, j'arrivais, j'avais des
T'avais tes
dispositions au
habitudes.
départ. Ouais, j'étais tranquille, quoi. C'est-à-dire que s'ils ne m'avaient pas un peu bougé de ma zone de confort, j'aurais jamais eu ce parcours-là. Donc, il faut accepter ça aussi. Et entraîneur, ce n'est pas toujours facile de le faire avec ton joueur ou ta joueuse. Et puis l'athlète doit le recevoir comme un cadeau, finalement. Alors que ce n'est pas toujours facile, bien sûr, quand tu es jeune, que tu es déjà, comme tu disais, assez forte. Tu n'as pas forcément envie qu'on bouge trop. Tu es bien dans ton petit confort aussi.
Mais
Et
finalement, c'est
ça
ça
fait
la force des
partie.
meilleurs, je pense.
Mais bien sûr, c'est que ça.
C'est que ça.
Il y a le travail, il y a tout ce qui va avec, mais s'il n'y a pas ça, tu stagnes, voire tu régresses du coup.
Assez rapidement, tu es très forte. Est-ce que tu commences à mesurer rapidement ce que tu représentes? Et
Non.
comment? Non? Enfin, j'allais dire comment tu le vis, mais si tu ne t'en rends pas compte, tu le vis normalement.
Non, parce que pour moi, je m'entoure. D'abord, on est une génération très forte, les 79, surtout chez les filles.
Quelle fierté d'en faire partie. Ah non, c'est juste chez les filles, pardon.
Non, je déconne. Non, non, mais on est 78-79, garçons-filles, on a un gros groupe.
C'est
On a un
costaud.
gros groupe, c'est costaud, ça gagne en junior, ça suit bien derrière sur le circuit pro. Donc en fait, on est un groupe, on est un peu entre nous quand même à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si tu ressens ça aussi, toi, mais on vit un peu le truc un peu comme des gamins. Puis derrière, ça se professionnalise, mais on a toujours un peu cette espèce d'insouciance. Et finalement, toute la carrière, ça a été un peu ça. Il y a toi, il y a Seb Grosjean, il y a Arnaud Clément, il y a Nat Dechy, il y a Émilie Loi, il y a Anne-Gaëlle Sidot, si tu te souviens, au début. Donc, on est 6-8 sur le circuit, un peu toute l'année, tous ensemble. À l'époque, il y a un peu plus de tournois que féminins et que masculins. Il y a un peu moins d'événements mixtes, mais. Voilà, et du coup, moi, j'ai vachement gardé ça et cette joie d'être vraiment en groupe. Et donc, je n'ai jamais trop réfléchi, en fait, pendant ma carrière à ce que, oui, arriver numéro 1, gagner Grand Chelem ou quoi, j'ai jamais trop. Pour moi, je vivais mon truc et puis derrière, on était en groupe, quoi. Derrière, les individualités faisaient le groupe et voilà, c'était.
La médiatisation, le regard des gens, tout ça, tu le vis assez normalement. C'est pas un truc, un
Non,
poids,
je ne le vis pas
ouais,
bien.
qui rajoute.
Alors, je ne le vis pas bien. Alors, il y a la médiatisation par rapport au coming out, donc quand j'étais très jeune. Donc ça me pèse énormément. Euh,
Ça, c'est
et
lourd après,
j'arrive.
ouais. C'est quand même un truc
Ouais,
qui pèse
c'est lourd. Tout de
longtemps.
suite, tout de suite, en fait, tout de suite après, c'est très lourd, cette attention que j'avais pour le coup pas anticipée, un peu bêtement, naïvement. Et après, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis détachée de ça et que les gens ont vu la joueuse de tennis. L'athlète, ce que je gagnais, enfin la championne en fait que je suis devenue par la suite. Donc après, c'était plus facile à vivre cette reconnaissance-là. J'en avais besoin aussi, j'en avais besoin énormément d'être connue comme ça, pour ce que je faisais, pour ce que j'accomplissais finalement sur un terrain. Mais après, c'était jamais. Enfin, je disais non à 99% des demandes que j'avais, quoi. Donc,
C'est pour ça que
un
je
peu.
te remercie encore
J'en ai
d'avoir
beaucoup moins.
accepté.
J'en ai beaucoup moins maintenant,
Ouais.
hein, je te rassure. Non, non, mais c'était. Oui, c'est pas. Ben, tu le vois maintenant. Oui, c'est pas forcément. Je recherche pas la médiatisation. Voilà. C'est un peu lointain presque tout ça. Donc, c'est marrant de s'y replonger là aujourd'hui
Je te le
avec
confirme, c'est
toi.
lointain.
Ben ouais. Donc.
Moi, je me rappelle de la première fois où je t'ai vu à Poitiers. Je crois que c'était
Ouais.
loin de la machine à corder, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, ce que tu dis, c'est que nous, on change pas, on porte toujours le même regard d'enfant qu'on avait les uns sur les autres. Ces
C'est
générations
ça.
77, 78, 79, on s'est tellement côtoyés dans nos jeunes années. C'est vrai que quand on se parle, oui, T'es une grande
on
championne.
s'en fout.
Je parle surtout à Amélie, enfin, plus qu'à la grande championne, évidemment.
Mais c'est ça.
C'est ça.
Mais c'est
toi,
ce
c'est
qui
ce que
permet
tu as gardé,
aussi.
En fait.
Exactement. Et c'est ce qui permet sur toute une carrière ou même après ou quoi. Enfin, je veux dire, bon, on est tous encore là à se côtoyer. Peu importe, finalement, les accomplissements des uns et des autres. Aujourd'hui, 10 ans, plus de 10 ans après, enfin, on n'en parle jamais, quoi. On s'en fout, finalement, d'une certaine façon. Et c'est un peu étrange, finalement, d'avoir consacré de façon aussi extrême et intense toutes ces années de nos vies à aller chercher des choses qui, dans nos autres vies, dans nos deuxième vies ou troisième vies, même maintenant, ont si peu d'importance, parfois. C'est assez marrant. Ouais, c'est bizarre. Et n'empêche que ça reste une fierté immense.
Ouais, mais c'est juste que tu es passé à autre chose et que tu ne te raccroches pas à ça. C'est que tu vis des choses passionnantes aujourd'hui, tes enfants. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Je pense que c'est aussi très sain, finalement, de le vivre
mais complètement,
de cette manière.
Mais complètement. J'ai une passion
d'autres
extraordinaire qui est le vin, qui me passionne beaucoup. J'ai la famille. On vit dans un cadre, nous, ici, extraordinaire. Donc, on a plein d'activités en dehors qui sont fabuleuses. Puis les amis.
Mais ce que tu dis, ce n'est pas le cas de tous les athlètes qui, justement, n'arrivent pas forcément à retrouver une voie avec du plaisir, de la satisfaction et du goût, finalement. Parce qu'aujourd'hui, toi, c'est le cas et c'est super, c'est sain, c'est équilibré et c'est la preuve. Donc, tu es apaisé, mais il y en a qui, tu dis, qui vivent encore beaucoup dans le passé et qui en ont besoin. Et toi, tu dis, je n'ai pas besoin d'en parler, j'ai cette fierté, elle est en moi. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai. Mais c'est parce que tu as tourné la page, que tu es allé au bout de ton truc aussi.
Ouais, je pense que j'ai été.
Tu n'as pas de regret, j'imagine.
Aucun, voilà. Aucun. J'ai le sentiment d'avoir accompli ce que je pouvais accomplir.
Tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire, vraiment.
Avec ce que j'avais à chaque fois en moi, dans chaque moment, dans chaque instant. Et c'est pas parfait, c'est loin de l'être, mais en tout cas, c'était mon chemin. Tennistique. Et je trouve que ça, c'est très important de finir comme ça. Et je pense que la fierté, elle est là aussi, de se retourner finalement au moment où j'ai pris ma décision d'arrêter ma carrière, de me dire, bah, c'est bon là. Je pense que je ne peux plus rien faire d'autre qui va me satisfaire dans le tennis. Je pense que voilà, le parcours, il a été fait. Et aujourd'hui, c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est une chance. C'est une chance extraordinaire parce que c'est ni mon corps qui m'a arrêté, c'est juste ni un ras-le-bol finalement, c'est juste d'avoir dit je crois que là c'est le moment. Et je pense que ça permet quand même de passer à autre chose plus facilement derrière.
Donc après, il s'est passé pas mal de choses et j'aimerais quand même qu'on évoque ta grande carrière de coach. Alors, bon, tu es capitaine de Fed Cup, capitaine de Fed Cup, tu as ensuite coaché donc des hommes, et tu n'es peut-être pas la première qu'il a fait, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, je me rappelle de Chesnokov qui avait donc une femme coach, mais donc c'était pour le coup peut-être le premier, il me semble, peut-être.
Probablement, je ne sais pas.
Il y en a très très peu. Et toi, ben finalement, donc, on est venu te chercher. Comment ça s'est passé, tout ça ? Tu avais ce désir ou pas ?
Non. Honnêtement, j'avais jamais pensé, juste même sans parler d'un joueur ou d'une joueuse, j'avais jamais pensé entraîner. D'ailleurs, je ne m'en sentais pas capable.
Pourquoi tu ne t'en sens pas capable ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, parce que je ne me sentais pas capable de construire des séances d'entraînement, de construire une planification, de... voir un petit peu le jeu du joueur ou de la joueuse. En fait, construire un truc sur du long terme, ça me semblait... Moi, je me sentais plus à l'aise. J'étais capitaine de Fed Cup quand Andy est venu me chercher. Pour moi, ça, c'était parfait. Pour moi, c'était... on est une semaine, tac, tac, on apporte des choses, mais en même temps, on ne peut pas faire de gros changements de toute façon. Donc, c'est plus... On apporte une confiance, on apporte... peut-être des petites choses ici et là, mais vraiment pas énormes, mais et on soude un peu le groupe. C'était, pour moi, c'était j'étais plutôt faite pour ça dans ma tête. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné avec des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été facile, mais globalement, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que du coup, quand donc c'est Andy qui m'a approché.
T'es surprise à ce moment-là, c'est une surprise pour
ouais,
toi.
Alors au début, je pense que c'est une connerie.
Tu crois pas, tu penses que c'est un canular?
Oui, bien sûr. Au début, je me dis, attends, je reçois un texto, je me dis, attends, c'est une connerie. C'est une connerie, donc je la fais soft. Oui, mais on s'appelle. Genre, ouais. Et effectivement, donc il me répond. Et effectivement, il m'appelle. Et donc là, on décide, c'était pendant le tournoi de Rome. Donc il est à Rome. Moi, j'étais à Paris, je crois. Et du coup, on décide de se voir pendant Roland-Garros. Donc, en plus, il vient de se séparer d'Ivan Lendl. Donc,
ouais, c'est ça.
Figure, il a eu ses meilleurs résultats avec lui. Moi, avec ma vision de moi-même, je me dis, je ne vais rien pouvoir lui apporter. Enfin, tu vois, c'est la nana qui se met... Grosse confiance, mais justement, c'est toujours un peu la personnalité. Donc, qui doute, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Franchement, Ivan Lendl, ça me semble bien mieux que moi pour en tant qu'entraîneur, quoi. Donc, on se voit à Roland-Garros, et là, il m'emmène dans son truc pour la première discussion qu'on a, parce qu'il me donne 3 points. Lui, cette notion, il est très réfléchi, c'est un gars brillant sur et en dehors du court, malgré son malgré que parfois on a envie de le secouer là sur le terrain et qui peut avoir une attitude qui nous insupporte. C'est un gars vraiment extraordinaire qui gagne à être connu pour le coup. C'est un type vraiment incroyable.
Oui, il est fin, il est intelligent.
Il a une intelligence extraordinaire. Enfin voilà. Un humour, et puis surtout une vision de lui-même, de ce qu'il est en train d'accomplir à ce moment-là, et tout, qui est très, très précise. Une vision très précise et sans concession de lui-même. Et donc, il me donne des points sur lesquels il a envie de m'avoir, pour lesquels il a envie de m'avoir à ses côtés, qui me semblent cohérents, et sur lesquels, pour le coup, je me sens
légitime.
Plutôt légitime. Sur,
tu peux nous les donner ou c'est...
Sur ouais. L'évolution. Non, oui, sur l'évolution de son style de jeu, même si je n'ai pas réussi vraiment à l'amener plus sur un jeu agressif, mais on a essayé, mais en tout cas, c'est un point qui me semble assez légitime. Il avait envie aussi d'une femme dans son équipe pour gérer côté management de ses hommes. Il m'a dit, mais il y a trop de testostérone aujourd'hui. Moi, je me sens à l'aise. C'est ma mère qui m'a appris à jouer au tennis. Avec Kim, sa femme, voilà, c'est avec elle que je parle le plus. Et aujourd'hui, je sens que je parlerai mieux avec une femme. Je parlerai plus librement à une femme. Et puis, il y avait un autre truc sur le plan tennistique, voilà, donc sur les grands chelems aussi, sur les grosses compétitions, la façon d'aborder. Donc, pour le coup, je me dis, effectivement. Peut-être que c'est ces joueurs, quoi.
Comment tu l'abordes? Tu l'abordes comme un challenge, comme un immense défi d'entraîner un des meilleurs joueurs du monde.
Et une grosse pression.
Sachant que ça ne se fait pas et qu'encore une fois, ben pour le coup, c'est important de le souligner, tu es une femme qui va entraîner un homme et ça ne se fait jamais, ou quasiment jamais.
Ça ne se fait jamais, surtout à ce niveau-là. Et c'est vrai que en plus de ça, l'accueil, bah donc c'est un gros challenge pour moi. Et en fait, c'est un gros challenge et je sens tout de suite que j'ai une responsabilité énorme et que j'ai pas le droit de me planter, quoi, en fait. Parce que si je me plante, c'est toutes les femmes qui se plantent avec moi, en fait. C'est un peu bizarre. Et du coup, on commence en plus par probablement la période de l'année la plus difficile à gérer avec Andy, qui est Wimbledon et toute la préparation, le Queens, Wimbledon, il est chez lui, donc voilà.
Pression.
Donc c'est vrai que, ouais, et en plus j'arrivais, alors pour le coup c'était très dur, l'accueil du milieu. J'arrive au Queens, je me souviens, c'est, y a pas eu de cadeau, quoi.
Tu veux dire l'accueil, l'accueil, c'est pas le monde du tennis.
L'accueil des autres entraîneurs, des joueurs.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est.
Ouais. Je sens qu'on te regarde bizarrement.
Ouais. J'ai pas ma place, pas en fait. Place, je suis pas à ma place. Je suis tout simplement pas à ma place, clairement.
Donc, tu as l'impression de devoir une fois de plus prouver.
Et par les joueurs. Ouais. Et par les entraîneurs. Et par une partie du staff d'Andy.
Ouais.
Donc, c'est un peu difficile. Mais ça se passe très bien avec lui. L'échange est très bon. Sur le terrain, le temps de prendre mes marques, je n'ai jamais vraiment entraîné. Puis en plus, il est en tournoi tout de suite. Donc, voilà.
Est-ce que tu as le sentiment, quand tu mets des bâtons dans les roues, je parle de son staff, parce qu'ils auraient aimé, eux, prendre cette place, ou parce que tu es une
parce
femme?
Parce que je pense qu'ils ne me respectent pas parce que je suis une femme.
D'accord, c'est clair.
Ouais.
Tu penses vraiment que c'est ça, parce que ce n'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les
et
habitudes.
Peut-être parce que je n'ai pas l'expérience d'entraîneur aussi. J'ai pas, voilà. Donc ça, c'est possible. Et d'ailleurs, ils sont partis. Ils sont partis. Voilà, Andy, en fin d'année après, donc au mois de juin, a fait le choix où en fait, eux aussi ont voulu partir, parce que Andy a voulu continuer l'aventure avec moi après la période d'essai, les différentes périodes d'essai. Et donc, voilà, on est parti sur du plus long terme. Mais donc, c'était difficile. Et en fait, j'ai appris sur le tas à être coach pour revenir à la discussion de départ. J'ai appris, j'ai passé énormément de temps à préparer les séances, à préparer les semaines, à préparer les périodes d'entraînement, à préparer tout, à regarder des vidéos, de lui, à regarder des vidéos des adversaires, à regarder des vidéos de ses adversaires principaux pour atteindre ses objectifs qui étaient de gagner des grands chelems. J'ai beaucoup travaillé encore à ce moment-là pour me sentir au niveau, parce que je pense que les premières semaines, je n'étais pas au niveau, que voilà, il fallait que je découvre un peu les choses, donc j'ai travaillé. Et puis ça s'est très bien passé, il est revenu, on va dire, il sortait aussi d'une opération au dos, donc c'était un peu compliqué, et il avait déjà à l'époque ses problèmes de hanche. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé, c'est une très jolie expérience. Et quand ça s'est arrêté, de nous deux, je pense que j'avais plus rien d'autre à lui apporter, et il fallait qu'il aille sur d'autres, avec quelqu'un d'autre, quoi. Pour moi, pour le coup,
ça s'est fait aussi d'un commun accord. Ça a été pour toi,
c'est naturellement
accepter de comprendre qu'à un moment, tu arrives à un stade où tu peux plus lui donner. Toi, tu es capable de lui dire.
Bah ouais, je lui dis, je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout. Lui aussi, de toute façon, parce qu'il y a une communication qui est bonne, et une forme d'intelligence des deux côtés, de se dire on est arrivé au bout de notre chemin commun, en fait. Et ça n'empêche qu'on a continué à bouffer ensemble, à manger ensemble sur les tournois, etc. Mais voilà, sur le boulot, on avait fait le tour, je pense. Mais moi, ça ne me choque pas de dire ça, en fait.
Non, mais c'est intéressant, parce que c'est rare aussi. Tous les entraîneurs ne sont pas en capacité de pouvoir reconnaître qu'à un moment, tu arrives au bout d'un
cycle. Peut-être parce que je ne suis pas entraîneur, en fait. Je pense que je reste joueuse un peu dans mon approche, finalement.
Ouais. Mais, en tout cas, ça te plaît, puisque derrière, tu récidives avec Lucas Pouille.
Ouais. Donc, ce qui me plaît, c'est les projets. Ce qui me plaît, c'est pas d'entraîner, en fait. Je sais pas comment dire. C'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui va amener à... Et, alors, tu me diras, c'est ça, entraîner, mais j'ai besoin que la personne me dise, je veux faire ci, je veux faire ça, je t'emmène, je voilà. En fait, c'est ces projets-là qui sont intéressants. Mais donc, oui, je récidive ce que je pensais pas du tout faire. Parce qu'en plus, j'ai eu entre-temps mon deuxième enfant. Donc pour moi, coacher égale voyager. Donc je sais pas du tout. J'ai monté ma boîte de vin entre-temps. Donc c'est vraiment plutôt je me pose. Je suis à Anglette, je suis bien, je me pose. Voilà, vie de famille, autre passion qui prend le dessus.
Et là, pareil, c'est Lucas qui t'appelle.
Oui.
Et là, pareil, Lucas. Et là, tu sais que c'est bien, là, cette fois-ci, c'est bon.
C'est son agent qui me contacte, et en fait, pareil, je lui dis, écoute, je sais pas, faut qu'on se voit, faut que je voie Lucas, faut qu'on se parle, et donc on se voit juste après la Coupe Davis, la défaite cette fois en finale, fin 2018. Et il m'emmène, en fait. Il me parle, il dit voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, et du coup, ok, on y va. On y va. Alors moi, voilà, la seule chose, c'est que je vais voyager en famille. Voilà, je te le dis, parce que sinon je fais pas. Et voyager 30 semaines dans l'année sans la famille, c'est pas envisageable pour moi. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et voilà,
vous avez fait un petit bout de chemin, ça s'est bien passé.
On a fait un petit bout de chemin, ça s'est très très bien passé au début, puisque un peu, enfin, de façon incroyable, ça se passe très très bien en Australie avec cette demi. Et puis derrière, ça a été plus difficile parce qu'il y a eu une succession d'événements, soit physiques, soit perso, qui ont compliqué un petit peu la donne et qui ont compliqué son investissement aussi du coup dans sa carrière. Donc c'était derrière, ça a été difficile, ouais. Mais c'était pour le coup intéressant aussi parce que essayer de trouver les mots pour ramener, pour l'amener dans ce qui avait fonctionné, dans cet esprit qu'il avait eu. Et ça a été très difficile. Ça a marché à certains moments, mais pas tout le temps. Et voilà. Et comme quoi, c'est le joueur. On parle souvent des entraîneurs, surtout quand les entraîneurs sont anciens joueurs avec un joli palmarès. Mais malgré tout, voilà, c'est le joueur qui est sur le terrain. Donc, bien sûr, on essaye d'aider autant qu'on peut, mais la décision, elle vient du joueur, de toute façon.
Et quand ça s'arrête pour quelle raison avec Lucas? Pourquoi ça ne va pas plus loin?
Pour les raisons de contexte actuel qui empêchent, si tu veux, on le voit encore avec ce qui se passe en Australie en ce moment, qui empêchent tout simplement de voyager en famille. Et moi, il le savait. Il y avait deux choses. Il y avait l'entrée au CP qui des enfants qui allait compliquer la donne. Mais ça, c'était septembre 2021. Et du coup, pendant Roland-Garros, au mois d'octobre, je lui dis, mais Lucas, aujourd'hui, ce qui se profile pour les joueurs et leurs entourages, c'est quand même une vie un peu d'asset sur le circuit, à imposer des quarantaines à droite à gauche, à avoir des tests PCR tous les deux jours, à ne pas pouvoir sortir de sa chambre d'hôtel. Je lui dis, moi, c'est pas mon truc, quoi. J'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. Voilà, je t'adore et je sais qu'il y a du boulot encore à faire, mais voilà. Donc, ce qu'il a tout à fait reçu, c'était un peu difficile comme discussion à avoir, mais voilà, je lui dis, plutôt que d'arrêter au moment où on part en Australie, je pense que c'est mieux que tu t'organises un petit peu en amont et que, pour le coup, il était blessé, donc il n'est pas parti en Australie, mais voilà, c'était ces conditions familiales. Et même au-delà de la famille, très honnêtement, je pense pas, même si j'avais pas eu les enfants, là, quand je vois ce qu'ils vivent, là.
Ouais, quand tu vois ce qui se passe, c'est compliqué. Hein.
Ouais,
c'est très compliqué.
Il faut vraiment avoir la foi et je ne sais pas si je l'aurais, honnêtement.
Pour revenir sur un sujet qui anime énormément depuis quelques années maintenant, enfin sur la parité. Ça devient une cause majeure dans le sport, dont le tennis, finalement, n'est pas si mal loti.
Ouais.
Mais est-ce que tu crois que toi, on doit imposer la parité, en tout cas dans la couverture du sport?
J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je ne sais pas vraiment quoi te répondre. Alors, peut-être que je ne fais pas une bonne avocate de la parité, mais en même temps, je suis honnête dans ce que je dis et dans ce que je ressens. Je sais, la parité pour la parité, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pas très intéressant. Je pense je parle plus de justesse, peut-être. Une femme sur un même poste, une femme aussi qualifiée qu'un homme, bon, je vois pas pourquoi on prendrait plutôt l'homme que la femme. Donc, c'est plus là-dedans, tu vois, où j'ai envie d'avoir, où je pense qu'il y a un vrai combat à avoir. Je pense, malgré ça, qu'il faut peut-être imposer un temps minimum. Est-ce que c'est le même temps que pour les hommes? Je ne sais pas, on part de très loin, dans certains sports notamment. Mais quand je vois l'engouement qu'il y a eu pour la Coupe du Monde de foot en France là, pour les filles, je me dis, bah, en fait, c'est ce que je disais au début, la poule et l'œuf, en fait, quand tu montres ça aux gens, aux spectateurs, aux téléspectateurs, mais ils répondent présent. Donc, oui, peut-être il faut forcer. Peut-être que comme dans toutes les évolutions, ouais, peut-être que comme dans toutes les évolutions fortes de notre société, dans tous les domaines, eh ben, il faut imposer un petit peu au départ les choses. Tu vois, en même temps, j'ai la réflexion. Peut-être qu'il faut imposer un petit peu au départ les choses pour que ça devienne plus naturel. Et pour amener les gens à découvrir ces athlètes-là, ces sportives-là, ces sports-là. Ouais, peut-être.
Parce qu'en fait, quand on parle de parité, on parle là pour le coup vraiment de couverture. Mais parce que quand
couverture,
tu parles, toi, tu parles plus de compétences égales.
Ouais, toi, mais en fait. Ouais, mais après,
égales, tu vois, par exemple, aujourd'hui encore, on sait très bien qu'un homme va peut-être toucher plus d'argent qu'une femme. C'est là où c'est quand même totalement injuste.
Ça, c'est injuste. Évidemment, c'est très injuste dans le domaine du travail. Mais si on reste dans le domaine du sport, tu vois, je finis quand même ma réflexion en disant, bah oui, en termes de couverture médiatique, on est peut-être obligé d'imposer un petit peu aux médias, pour ceux qui ne le font pas déjà, un certain nombre d'heures de couverture de certains événements sportifs féminins, parce que finalement, je pense que la maillot, elle va prendre et que ça va bien se passer derrière et que le public va répondre présent.
Mais tu penses que c'est parce que l'on imagine, la presse, les médias, de manière globale, que ce sont plutôt les hommes qui, enfin, une grande majorité
d'hommes
qui suivent plus le sport. Mais qu'à la fin, pour inverser la tendance, il faut peut-être réussir aussi à en proposer plus. C'est exactement un petit peu ça, ouais, le débat. C'est justement d'en mettre un peu plus, de mettre plus en avant. C'est ce que tu dis. Tu parles
de l'anglais. Est-ce que j'ai pas les... Et c'est pour ça, j'ai pas les stats, tu vois, de... Oui, probablement, les hommes regardent plus le sport en général, mais est-ce que les hommes qui ont dû regarder quand même en grande majorité la Coupe du Monde de foot féminin, ils ont pas trouvé leur compte? Attention, et c'est autre chose, c'est-à-dire il y a pas physiquement c'est différent, il y a pas bien sûr il faut si tu t'attends à un copier-coller, c'est comme dans le tennis, comme dans tous les sports, il y a certaines choses tactiquement qui sont différentes, physiquement qui sont différentes, c'est comme ça. Donc, mais je pense qu'ils ont bah, ils ont trouvé leur compte quand même, je pense. Tu vois, j'entendais plein de mecs qui disaient bah, attends, mais ça joue bien les filles là au foot. Enfin, on l'a entendu, c'était ah ouais, ça joue bien quand même. Tu vois, donc c'est un peu, c'est aussi ces vieilles pensées qui et peut-être qui étaient valables à une certaine époque, qui, je pense, sont plus forcément valables maintenant.
Mais alors justement, tu parles un peu de faire évoluer les mentalités de cette manière, mais je te pose une question, tiens, on revient sur le tennis, et une des dernières questions, après je vais te laisser tranquille, ça fait un petit moment qu'on discute, mais est-ce que sur le tennis, il y a eu des matchs en 5-7 chez les filles pendant de nombreuses années, et ça a été stoppé. Toi, tu penses...
Il y en a eu un, c'était la finale du Masters.
Mais pendant plusieurs années. Tu vois, ça a duré, je sais pas, 13 ou 14 ans, j'en sais rien.
Ouais, ça a duré longtemps. Ouais.
Est-ce que...
Moi, j'aurais adoré.
Toi, t'aurais adoré. Et est-ce que tu trouves pas ça anormal, finalement, qu'il n'y ait pas quelques matchs en 5-7, j'en sais rien. Est-ce que tu trouverais ça intéressant de l'intégrer?
Alors, moi, je suis à fond.
Un des débats sur les grands chelems, c'est un peu ça. C'est dire les femmes jouent en 2-7 gagnants pendant que les hommes jouent en 3-7 gagnants. Est-ce qu'on met ça sur la dimension
physique? Est-ce que ça compte dans la...
Voilà, c'est rien. Moi, aujourd'hui, je te pose vraiment cette question. Qu'est-ce que toi, comment toi, tu...
Moi, je suis absolument favorable. J'entends cet argument. Alors, il y en a qui le démontent en disant « Mais attends, quand tu vas au spectacle, tu payes le même prix que ça dure une heure et demie ou trois heures, ou à un concert, ou n'importe. » Ok. Moi, je vais plus sur l'aspect sportif. Je suis favorable au fait que les femmes, peut-être sur les finales de Grand Chelem, pour commencer, jouent en 5-7, au meilleur des 5-7. Effectivement, d'abord, il y a souvent des finales de Grand Chelem qui sont à sens unique chez les femmes. Rafa à Roland, peut-être aussi. Mais je pense que ça permettrait aux joueuses de rentrer un peu mieux dans les finales de façon générale et de proposer autre chose. Et je pense que et pourquoi pas, si effectivement ça peut être un argument pour dire que la parité en termes de prize money est respectée, peut-être. Et pourquoi pas le décliner après sur un autre match, peut-être demi et finale, je ne sais pas. Mais en fait, j'étais, ouais, je pense, moi, je trouve qu'en plus, ça amènerait physiquement le tennis féminin à un autre niveau. Et donc, c'est pour ça que je parle plus sur l'aspect sportif. Je pense qu'on aurait de plus en plus d'athlètes, vraiment d'athlètes, qui seraient capables d'être considérés comme des athlètes. Et que voilà, j'ai toujours été curieuse de voir... comment le tennis féminin se développerait s'il y avait effectivement cette obligation d'être prête pour des finales en 5-7 sur les grands chelems.
Ah mais je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon.
Un bon petit tour.
Je ne sais pas si, je ne crois pas, enfin, on pourrait avoir 1000 choses à se raconter, à rajouter, mais on a fait le tour. En tout cas, je voulais te remercier pour voilà, cet échange de qualité. Je sais que je t'ai entendu sur quelques interviews dire, si je m'exprime peu, c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir grand-chose à dire. Moi, je te le dis.
Et oui, c'est vrai.
Tu as plein de trucs à dire. Et c'est passionnant. Donc, tu sais quoi, j'espère qu'on rediscutera. Alors, pas forcément pour Eurosport en off, parce que tout ça est vraiment passionnant. Je ne sais pas ce qu'on peut
te souhaiter.
C'est
vrai qu'on a très peu échangé, peut-être par pudeur, peut-être par timidité, sur ce qu'on pense vraiment du tennis, de ce qu'il y a... de champion, de ce qu'il y a à mettre en place pour...
Le problème, c'est que si on est deux à penser qu'on n'a pas grand-chose à dire...
Oui, c'est vrai. Il vaut mieux qu'on parle bon, d'autre chose autour d'un bon verre, dans ce cas-là.
On sera voisins bientôt.
Voilà.
Donc, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter pour 2021. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur.
Merci.
Merci mille fois, Amélie.
À toi
pour
aussi.
Cet échange, on s'est régalé.
C'est cool.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. N'hésitez pas à commenter sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. À très vite. Ciao.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.